Le Seigneur, au travers d'Arlette, il vient de me dire quelque chose où je ne suis pas d'accord avec Emmanuel et je pense qu'il sera d'accord avec moi. On a un ennemi qu'il ne faut pas aimer. Je pense que vous avez compris de qui je parle. Alors pourquoi j'ai demandé une seule exhortation? Parce que je vais aborder un sujet ce matin, une question. Et si vous êtes fan d'aller sur les sites chrétiens, vous verrez que cette question n'est pratiquement, et je dirais qu'elle n'est jamais abordée. L'enfer existe-t-il? C'est un sujet que les gens n'aiment pas, un sujet que les gens n'aiment pas entendre parler. Et en espérant ne pas en parler, ben l'enfer n'existe pas. Vous savez qu'il y a des églises aux États-Unis qui disent même que Satan n'existe pas. Mais en fin de compte, il y a même des gens qui écartent l'existence de Dieu. Hop, Dieu n'existe pas. Ça les rassure. Ça leur évite de se trouver condamnés devant des attitudes du monde. Et puis vous avez, moi je crois que oui, moi je crois à ça, moi j'y crois pas, moi ceci, moi cela. En fin de compte, les choses apparaissent et disparaissent selon nos croyances. Voilà. L'enfer, il existe, moi j'y crois pas. Dieu est bon. Et ça c'est le piège. C'est le piège du chrétien. Dieu est bon. On a oublié. Dieu est juste et bon. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est accepter ce qui est vrai. C'est pas s'inventer une religion à soi-même. Une religion où on va prendre des choses qui nous vont bien, qui nous rassurent, et laisser de côté les choses qui nous condamnent, les choses qui nous titillent le cœur. L'enfer fait partie de ces choses-là. La foi, c'est en fin de compte être en harmonie avec la parole de Dieu. C'est savoir ce que je dis et ce que je vis est vrai. Qu'il n'y a pas deux choses différentes entre ce que je dis et ce que je vis. L'enfer existe-t-il? Alors vous allez me dire, c'est tellement important que même Jésus en a parlé. Et en Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Vous allez voir la richesse de ce qu'on peut tirer de ce texte. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. » Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père, Abraham, entre parenthèses, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Vous savez qu'il y a même des chrétiens qui ont dit que ce texte n'était qu'une parabole. Qu'une parabole, une image. Voilà. On pouvait en tirer un enseignement. Seulement, quand on lit les paraboles de Jésus, souvent Jésus ne mentionne aucun nom. Si vous lisez les paraboles de Jésus, il va citer aucun nom. Dans celle-ci, il cite tous les noms. Nous avons le pauvre nommé Lazare. Nous avons le père Abraham. On a Moïse et les prophètes. La question, c'est, dans ce texte, il y avait un homme riche qui a mené une vie brillante. Il y avait un pauvre nommé Lazare qui a vécu une vie désastreuse. Sont-ils morts tous les deux? Est-ce que Jésus a voulu soulever un voile? Est-ce qu'il a voulu nous montrer ce qu'il y a derrière ce voile? Pourquoi nous raconter ce que l'un a enduré et ce que l'autre a vécu dans le bonheur, entre guillemets, dans la richesse, entre guillemets. En fin de compte, c'est pour nous inviter à croire quoi? C'est pour nous inviter à considérer quoi? La première chose, c'est, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare. Cet homme riche, on peut déjà dire qu'il était religieux. Parce qu'il dit, tes frères, Abraham lui répond, tes frères ont Moïse et les prophètes. Donc ça veut dire que cet homme riche connaissait la parole. Il avait la parole, l'Ancien Testament. Il connaissait donc parfaitement les Écritures. Et il savait qui était Abraham, parce qu'il l'a interpellé par son nom Abraham. On peut s'imaginer qu'il a eu des funérailles dignes de son rang, où il y a eu des grands discours qui ont fait l'éloge de ses richesses, qui ont fait l'éloge de sa religiosité, comment il avait été béni par Dieu au travers de ses richesses. Mais dès qu'il était mort, cet homme riche a eu une sensation bizarre. C'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Jésus dit simplement, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, pendant qu'il était en proie au tourment. Voilà la chose que l'homme riche aperçut. Tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le terme séjour des morts, la traduction en grec, c'est Hadès. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette traduction qui est en fin de compte le lieu où se retrouvent les âmes qui ne sont pas sauvées. En instance du jugement, le fameux jugement qu'on trouve en Apocalypse 20. Après le jugement dernier, selon Apocalypse 1, la mort et le séjour des morts, le Hadès, furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est ce que vous dit Apocalypse 20. En deuxième point, ce qui est dommage, c'est d'attendre d'être dans le Hadès pour lever les yeux au ciel, pour lever les yeux vers Jésus. Dans le Hadès, cet homme a levé les yeux et il a vu ceux qui étaient dans la joie, dans le bonheur, même ceux qui avaient une vie misérable comme Lazare. Il a vu Lazare. Il l'a vu en compagnie d'Abraham, le père des croyants. En fait, quand le sein d'Abraham désigne le lieu où allaient les âmes du temps de l'Ancien Testament. Ceux qui mouraient dans un sacrifice expiatoire partaient directement ce que les Juifs appelaient le sein d'Abraham. Tant que Jésus, en fin de compte, n'avait pas accompli le sacrifice de la croix et être ressuscité. Cet acte qui les purifiait de leurs péchés. Donc les croyants autrefois qui mouraient allaient dans ce lieu. Et c'était un lieu béni pour les Juifs, le sein d'Abraham. Maintenant que le sacrifice de la croix a eu lieu, Jésus emmène le croyant dans le ciel. On le voit sur la croix, il a dit au brigand à côté de lui, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui même. Même si ce n'était pas encore le ciel, ce que je suis en train de vous dire, c'était quand même le sein d'Abraham. Et pour cet homme riche, il était loin du sein d'Abraham. Et Lazare était assis dans la félicité du sein d'Abraham. Lui qui avait vécu une vie misérable, il vivait dans le sein d'Abraham. Lui, cet homme riche qui avait vécu une vie religieuse, remplie de richesses, il était en proie au tourment, à l'éternité. Ce qui est incroyable, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est que cet homme a reconnu Lazare. Il a reconnu et identifié Abraham. Et c'est l'une des pires agonies. C'est que lorsque les gens vont être en enfer, ils vont voir le ciel à côté. Vous avez fait attention à ça quand on l'a lu ? Vous avez fait attention que ceux qui seront en enfer verront le ciel ? Parce que ce qui est dit là, il a vu Lazare, il a vu Abraham. Et à un moment donné, il dit, il y a une séparation énorme entre nous. Donc ce riche, en proie au tourment éternel, voyait le ciel. Vous imaginez un peu ? Vous imaginez un peu ? Peut-être qu'il a, dans la pire agonie qu'il connaît maintenant, les regrets. Est-ce qu'on doit attendre qu'il soit trop tard ? Est-ce qu'on doit attendre le dernier moment ? Est-ce qu'il n'est pas temps de lever les yeux dès maintenant vers Jésus-Christ ? Lui, il l'a fait. Trop tard. Il l'a fait vers Abraham. Et c'est Jésus qui raconte cette parabole, entre guillemets, de ce riche qui lève les yeux vers Abraham en lui disant « Père ». Il l'appelle Père. Il est trop tard. On ne va pas au ciel parce qu'on est bon. On ne va pas au ciel parce qu'on est religieux. Parce que cet homme riche a appelé Abraham père, comme je vous ai dit. Et Abraham l'a appelé mon fils. Vous imaginez ? Il l'a appelé mon fils. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui puisse nous emmener vers le ciel. Il n'y a que son sang qui nous purifie. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui est religieux doit être enlevé de notre vie. Cet homme riche a vécu des moments, peut-être, avec ce qu'il avait de la parole de Dieu. Il la lisait peut-être tous les jours. Mais comment était sa vie? Comment était sa foi? Puisque cette parabole, entre guillemets, nous dit qu'il était dans les tourments éternels. Il s'est bercé d'illusions pendant un temps incroyable. Et aujourd'hui, il appelle au secours, Père Abraham. Est-ce qu'on va appeler au secours un jour Jésus? Il y a pire que ça, c'est le troisième point, c'est que dans l'agonie de l'enfer, il va se souvenir de tout. De tout. Au verset 25, Abraham dit « Mon enfant, souviens-toi ». Les gens qui vont en enfer vont garder une mémoire intacte. Vous imaginez? Imaginez-vous simplement quelqu'un un jour qui entend la parole de Dieu, qui lui est annoncée, qui lui transperce le cœur, qui refuse la parole de Dieu et qui se retrouve dans le même état que cet homme, en enfer. Et qu'il se souvient au milieu des tourments éternels qu'un jour, quelqu'un lui a dit « Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. » Vous imaginez les moments terribles. Est-ce qu'on pourra accuser Dieu, comme on l'entend dans ce monde, quand je serai devant lui? Mais souviens-toi, je t'ai envoyé un ange qui t'a parlé de moi, qui t'a donné la vérité, selon ma parole. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as rejeté? En fin de compte, en enfer, on aura une très bonne mémoire. Et c'est ça qui est terrible. Parce qu'on va se rappeler de tout. Mais le problème, on aura des souvenirs, mais on aura surtout des regrets, et des regrets éternels. Parce que celui qui va se retrouver dans le Hadès, ça sera l'éternité. Et les regrets vont être éternels. Ça sera le temps du « si j'avais su ». Mais il sera trop tard. En fait, Dieu nous aime. Dieu ne veut pas qu'on se retrouve dans ce lieu de perdition. Et Jésus avait dit en Matthieu 25, verset 41, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc il repoussait les gens qui avaient un esprit de contradiction. Les religieux, il les repoussait. Vous savez qu'à l'origine, le feu éternel avait été préparé pour le diable et ses démons. Mais aujourd'hui, malheureusement, il est réservé aussi aux hommes. Aux hommes qui auront suivi le diable. Aux hommes qui auront eu la même vie, la même pensée. Aux hommes qui auront refusé de se repentir. Parce que ça, on en viendra après. Ils vont partager le même jugement que Satan, le même jugement que les démons. Jean chapitre 16, verset 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et les humains vont être convaincus de jugement parce qu'ils auront suivi Satan. Mais quand on se repent de nos péchés, quand on vient à Jésus, ce qui est fantastique, c'est que Dieu pardonne nos péchés. Et bien plus encore, il les efface. L'ardoise est à zéro. Vous présentez une ardoise vierge. En fait, quand il annule la place qui nous est réservée en enfer, est-ce que vous avez conscience de ça ce matin? Que la présence de Jésus dans notre cœur annule la place de l'enfer dans notre cœur également. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui a subi le jugement pour nous. Je vais vous préparer une place. Jésus prépare une place pour ceux qui sont en lui, dans le ciel, dans la félicité, dans un bonheur éternel. Comme l'Apocalypse 21 nous le dit, Dieu sera parmi les hommes et au milieu des hommes, dans la cité céleste. Vous imaginez l'antagonisme entre les tourments éternels et la joie, le bonheur d'être en présence de Dieu, parce qu'on aura reconnu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, parce qu'on aura voulu vivre la même vie que Jésus-Christ. L'enfer existe. L'enfer est préparé pour ceux qui ont refusé de se donner à Jésus-Christ, de vivre conformément à la parole de Dieu. Je ne parle surtout pas de religiosité, c'est de vivre conformément à la parole de Dieu. On peut être une vie complète dans une église et se retrouver en enfer à la fin. Cet homme était religieux. Cet homme lisait la parole qu'il avait et il s'est retrouvé en enfer parce qu'il ne s'est pas repenti. Et on en viendra à ça. Après, en enfer, l'homme riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi !» On a besoin d'entendre cette parole, « Aie pitié de moi !» Vous imaginez que c'est une prière qu'il a faite à Abraham ?« Père Abraham, aie pitié de moi. » Et cette prière n'a absolument pas été entendue. Souvent, je dis à certaines personnes, lorsqu'on a sa vie qui n'est pas réglée, devant le Seigneur, nos prières ne dépassent pas le plafond. C'est ce qui se passe exactement pour cette personne. Il appelle Abraham au secours, et sa prière n'est absolument pas entendue. Son dernier cri a été pour lui-même. Il crie à Abraham, « Envoie Lazare soulager cette soif intense. Viens, qu'il trempe son doigt dans l'eau. » Au milieu de ses tourments, il voulait encore la grâce de Dieu. Parce qu'il ressentait la douleur, parce qu'il ressentait la souffrance. Et au milieu de tout ça, il aurait voulu connaître la grâce de Dieu, mais il était trop tard. Trop tard. Et la soif qu'il ressentait n'aurait pu être étanchée que par Jésus-Christ, celui qui l'avait refusé. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est ce que la parole nous dit. En enfer, la soif de Dieu sera encore plus intense et atroce. Pourquoi atroce? Parce qu'on aura la conviction dans notre cœur qu'on ne peut rien faire. Que Dieu n'interviendra pas, qu'on a choisi d'être dans ce lieu-là. Dieu n'interviendra plus en enfer. Ça, il faut le savoir. Abraham lui a dit que cette soif ne pourra pas être soulagée. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand abîme entre le ciel et l'enfer, et personne ne peut le traverser. Après la mort, il est trop tard. On est arrivé dans notre destinée éternelle, soit dans la présence de Dieu, soit en enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Je suis désolé pour ceux qui auraient encore une petite conviction d'un endroit où, ben voilà, on se retrouve dans la présence, puis on dit, ben Seigneur, oui, c'est vrai, maintenant je reconnais, je me suis fait tromper. Non. C'est soit le ciel, soit l'enfer. Parce qu'il ne l'a vu qu'on ne pouvait rien faire, il y a un deuxième cri qui est arrivé. C'est le cri pour sa famille, qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment, au verset 28. Après la réponse d'Abraham, qui avait cet écart entre le ciel et l'enfer, il crie au secours pour sa famille. Cet homme réalise que pour lui, il n'y a plus aucun espoir. Et il pense à sa famille, il dit « j'ai 5 frères ». Et ils sont tous comme moi, ils sont religieux. En fin de compte, je m'aperçois qu'ils sont perdus. Et il dit au verset 27, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Et ce qui est incroyable, et pathétique, c'est qu'on s'aperçoit que cet homme-là, c'est devenu un gagneur d'âme, un missionnaire, mais en enfer, alors qu'il est trop tard. C'est maintenant qu'il pense à sauver des âmes. Il se préoccupe maintenant de sa famille. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu la crainte de l'enfer avant de mourir. Et c'est pour ça que je dis que c'est triste dans nos églises de ne pas prêcher l'enfer, de ne pas mettre les frères et sœurs devant l'évidence du ciel et de l'enfer, devant l'évidence du jugement de Dieu, parce que Dieu est juste et bon. Vous avez plein d'églises qui vous font malheureusement plein de messages sur Dieu est bon, Dieu a donné son Fils pour nous. Mais ils ne vont pas vous dire qu'est-ce qui va vous arriver si vous ne croyez pas en ce Jésus qui est mort sur la croix et ressuscité. Aucune église ne va vous le dire. Et c'est là où c'est triste. Sinon, pourquoi Jésus l'aurait mis dans sa parole? Pourquoi il aurait parlé de l'enfer dans sa parole? C'est parce qu'il y a des évidences qu'il ne faut pas cacher. Qu'est-ce que pensent en fin de compte ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ maintenant, à ce moment précis? Qu'est-ce qu'on a dans notre cœur si on n'a pas eu cet acte de repentance? Et ce qui est terrible, c'est qu'Abraham lui répond. Lui répond à la prière. Ils ont la Bible, c'est comme s'il leur disait ils ont la Bible, puisque sa réponse est ils ont Moïse et les prophètes. Il y a une évidence qui est devant leurs yeux, la foi. Qu'est-ce qu'ils en font? Et c'est là où je veux en venir. Et c'est là où c'est vraiment terrible. Parce que cet homme qui est dans les tourments éternels va dire une vérité qu'il ne s'est jamais appliquée à sa vie. Il savait exactement ce qu'il fallait faire pour ses 5 frères. Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais bon sang, mais pourquoi? Il va dire que ses frères vont se repentir alors que lui-même ne l'a jamais fait. et qui s'est retrouvé dans ce lieu de perdition parce qu'il ne s'est jamais repenti. C'est incroyable. Il donne la solution du problème dans lequel il se trouve éternellement aujourd'hui. Pour être sauvé, il faut se repentir. Il faut se repentir. C'est ce que dit ce texte. Il y a des millions de gens qui doivent le faire, et même malheureusement dans les églises. Il y a des millions de gens qui ont à se mettre devant le Seigneur et se repentir. C'est au milieu de ce texte qu'on trouve la vérité, la solution. Si le Seigneur t'a parlé, si l'œuvre de Jésus-Christ a posé son doigt sur ton cœur, repens-toi. Il faut te reconnaître pécheur. Ce n'est pas au milieu des tourments qu'il faudra dire « ben, je me repens, il sera trop tard ». Parce que ce que tu vas dire ne sera absolument pas entendu. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne vont même pas se laisser persuader, même si quelqu'un est ressuscité. Quand Jésus-Christ a été ressuscité, ceux qui l'ont vu, il y en a beaucoup qui ont commencé à rire et n'ont même pas cru en lui, et ils l'ont rejeté, ont continué à le rejeter. Et on lit ça dans ce texte, en fin de compte. C'est que même si quelqu'un ressuscitait à leur dire « Faites attention, je reviens dans un lieu de tourment », les gens ne se tourneraient absolument pas vers Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ressuscité des morts et les choses n'ont absolument pas changé. Et je dirais même c'est encore pire. Parce qu'aujourd'hui, on enlève même la pensée de Dieu. On a la Bible. On a la Bible sur Internet, on a la Bible sur l'électrice numérique, on a la Bible sur papier, et on a de plus en plus de non-croyants. De plus en plus de non-croyants. Les églises se vident. La foi n'existe plus. Quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, on vous rit au nez. Mais qu'est-ce qui va devenir de ces gens qui vous rionnaient? Quand vous témoignez de ce que fait Jésus dans votre vie? Quand on vous témoigne que vous êtes différent de ce monde, comme il a dit Emmanuel ce matin? Parce qu'on est dans le monde, mais pas de ce monde. Comment les gens réagissent? Est-ce qu'ils sont curieux de savoir ce qui vous anime aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont curieux de dire « mais ton esprit est différent de l'esprit du monde » Ou est-ce que vous allez vous retrouver, ou vous vous retrouvez, ou je me retrouve bien, au milieu des discussions graveleuses, au milieu des choses qui m'ulcèrent et que je n'ose pas. Quand on a des convictions, il faut les exprimer. Quand on a des choses, parce que ça va arriver de plus en plus, quand on est confronté à des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, est-ce que je réagis? Est-ce que je dis non? Je ne suis pas d'accord, même si on me traite d'intolérant. Même si on me dit « mais il faut vivre avec ton temps ». Moi, ma réponse que je leur dis « je ne suis pas de ce temps, je suis du temps de Jésus-Christ ». C'est ça ma réponse. Ah, ça fait rire. Ça fait rire. C'est vite passé, hein. Le ridicule ne tue pas, hein, je vous le dis, hein. Et surtout le ridicule selon Dieu. En fait, quand on s'aperçoit une chose, c'est que cet homme sait de quoi maintenant il parle, quand il parle de se repentir. Il sait de quoi il parle parce qu'il est en plein dedans. Si j'avais su, je me serais repenti. Mais va leur dire qu'eux, ils ont à se repentir. Et c'est un sentiment que chacun ce matin, on doit avoir, la repentance. Chacun, on doit avoir ça dans notre cœur. Parce que la destinée finale, ça sera, on va rejoindre cet homme dans les tourments éternels, s'il n'y a pas cette repentance. J'irai, l'image que je vais vous donner, elle n'est peut-être pas juste, mais c'est une image qu'il vient de me donner. C'est comme si vous aviez un superbe pommier, que vous aviez une pomme dans la main et que vous essayez d'accrocher la pomme au pommier. C'est vous et l'esprit qui est en vous qui doit faire que vous produisiez du fruit. On ne doit pas ajouter du fruit à ce que vous êtes. Parce que le fruit qu'on va vous ajouter ne sera pas de la sève de Jésus-Christ. Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, tout ce qui est en dehors de ce que l'Esprit vous demande et ordonne de faire, n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est du rajout. C'est du rajout. Ce qui est incroyable, c'est qu'on s'aperçoit d'une chose, et moi, quand j'ai étudié ce texte, j'ai trouvé vraiment triste. Vraiment triste, c'est que ce sont ceux qui sont en enfer qui ont le plus d'inquiétude pour ceux qui ne sont pas en Christ. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer? C'est-à-dire que, est-ce que ma vie est un témoignage? Est-ce que ce que je dis est un témoignage? Est-ce que ce que je pense est un témoignage? Est-ce que ce que je regarde est un témoignage? Vous imaginez que cet homme était dans les tourments éternels, il était préoccupé pour les gens qui n'étaient pas en Christ. C'est terrible. C'est terrible parce qu'on sait que pour lui, on ne peut plus rien faire. Qu'en est-il de notre famille? Comment on réagit pour notre famille? Comment on réagit pour nos voisins? Comment on réagit pour tous ceux qui nous entourent? Surtout quand on sait que dans la situation des tourments éternels, on ne peut plus rien faire. Même nos prières ne sont plus écoutées. Puisque Dieu ne se trouve pas dans l'enfer. Vous aviez fait attention à ça? Dieu ne se trouve pas dans l'enfer. Il est trop tard. Puisque l'enfer, c'est après le jugement. Vous êtes écarté de Dieu et jeté dans les tourments éternels. Il n'y a pas d'autre mot. C'est les mots de la Bible. J'aimerais terminer par ce verset que j'ai lu tout à l'heure. C'est en Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Aujourd'hui, l'Esprit est là. Est-ce qu'on est abreuvé par cet Esprit? Est-ce qu'on n'a que cet Esprit dans notre vie? Si ce n'est pas le cas, il est plus que temps de se repentir. Il est plus que temps de lever les yeux vers Jésus-Christ, de demander pardon, de régler sa vie. L'enfer existe. Je suis désolé de vous le dire, mais l'enfer existe. Et ça serait vraiment dommage de se retrouver en enfer parce qu'on a été bercé. dans la religiosité, parce qu'on a cru que, ben voilà, parce que j'étais à l'église, parce que j'étais partout, à toutes les réunions, ben j'étais sauvé. On n'est pas sauvé parce qu'on est bon. On n'est pas sauvé parce qu'on est religieux. On est sauvé parce qu'on a reçu Jésus-Christ. Et comme l'a dit Emmanuel ce matin, on a le sceau de Jésus-Christ dans notre vie. C'est-à-dire que les gens du monde ont deux attitudes vis-à-vis de nous. Soit ils ont soif de connaître ce qu'on connaît, soit ils nous rejettent. À nous d'agir ce matin. Amen.